L'expérience commence. C'est la grève. Parce que ça demande des efforts et que c'est fatigant, il faut une pause. C'est la grève du genre. La grève face à l'injonction de rentrer dans des cases. On fabrique du genre sans cesse, on incarne, on performe, on fait apparaître un corps reconnaissable pour être entendu, compris ou accepté. On donne des repères, on simplifie. Clémence Alzard et Angélique Thibault font l'expérience de se défaire du poids du genre. Ce sont des traversées, à travers plusieurs univers et à travers plusieurs corps, ouverts à l'interrogation. C'est un podcast en 4 épisodes qui sont ce soir rassemblés. Ça commence par Kings, en immersion dans un atelier drag king, où l'on apprend à occuper son corps et l'espace comme un homme. Ça se poursuit avec une voix poète, Joyce, puis Burnout, si le genre est un travail. Et ça se terminera à l'intérieur d'une nuit berlinoise avec Matt. On fabrique du genre, et puis à un moment, les corps font pause et prennent le temps de se chercher.
Là, tout de suite, je suis quel pourcentage féminin et quel pourcentage masculin ?
La grève du genre, Clémence Alzard, Angélique Thibault.
Poser la question à la fin de l'atelier. Okay.
Alors là, je parle, c'est ça. Et on enregistre.
Chacun a réfléchi à ça. On prend nos points de départ.
Ben, je m'appelle Joyce, Joyce Rivière. Je suis une femme trans butch et je suis écrivaine.
Cacher, oublier une partie de nos corps codés le plus féminin.
31 ans.
Ça va très bien.
Je préfère rencontrer et on va aller dans les autres.
Tu ne peux pas me percer.
Tu peux pas te percer.
Me transpercer.
Le fait de porter une robe au quotidien, le fait de porter un pantalon au quotidien selon le genre auquel on était assigné à la naissance et d'avoir telle posture gestuelle, telle voix, etc., va changer quelque chose.
Super.
Ça va.
Dans cet atelier, je vous encourage de vraiment aller assez loin dans vos recherches.
Tu deviens carré.
Fais des grands pas, les gars. La sensation d'être aplati, retenu par le bandage, c'est très important. Ça va nous aider à rentrer dans nos psychologiques plus masculines, qui est d'être en contrôle, en retenue. Les femmes sont élevées d'aller vers le monde. Et que les hommes sont plutôt élevés d'attendre que le monde vienne vers eux. Il faut que le monde soit à nu. Et on n'est plus à le monde, comme avant. Yes, yes. Cool. Vers l'antérieur, j'adore utiliser du matériel si féminin comme du maquillage pour se masculiniser.
Ça a l'air un peu dur, j'avoue que... Il va falloir que je la remplisse un peu. Ouais. Mais je pense que je vais me faire une plus grosse moustache. Quelque chose de plus... Enfin, grosse moustache, quoi.
On a déjà commencé à réfléchir que notre corps, il va fonctionner comme une machine. Maintenant, on est des pistons. Une machine qui fonctionne et qui va déclarer avec chaque pas notre possession de le lieu, d'accord ? On tente un par un. Yeah. et rappelle que c'est plus ni la tête qui dirige, mais c'est le beat qui drive, d'accord?
Super.
On est en code du prédateur, du dominant.
Wow.
Maintenant, on essaie de plus sourire, ok? Serrer la mâchoire. Alors, de un, ça reconnecte, ça nous aide à reprendre le contrôle sur soi, mais également, ça fait un mâchoire plus carré. Et c'est une technique qu'un gars m'a appris, il a dû faire au lycée, car il était homo, il a dû surjouer sa virilité pour sa sécurité. Et c'est une de ses techniques.
Je m'appelle Joe.
Je m'appelle Ulysse.
Hey, je m'appelle Jordan.
Je m'appelle Paul.
Si j'avance sur lui, je l'ai dominé. Je vais baiser ta femme.
Lui montrer, ouais, ouais, c'est ça.
C'est
trop long.
Chanté. Hey, je m'appelle Fred.
Je m'appelle Nicolas.
Hey.
Hey.
Je suis Nicolas.
Je m'appelle Matt.
Du coup, j'aimerais savoir maintenant en quel pourcentage masculin, féminin vous vous ressentez et qu'est-ce que c'était facile ou difficile?
Plutôt quand même 40 masculins et le reste quand même féminin. C'était peut-être encore un peu moins avant, mais c'est difficile pour moi d'être un homme. Voilà, j'ai du mal avec tout ce qui est s'imposer, prendre de la place. Donc ça...
Alors moi, je dirais 85% homme maintenant. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, j'ai pas confiance en moi, je suis totalement réservée. Et en étant un homme, j'ai l'impression que je suis autorisée à pouvoir me lâcher. Et du coup, c'est marrant.
Non, mais incroyable, t'étais une des plus.
Alors, je suis réservée, timide. C'est comme si là, j'étais autorisée.
Moi, je dirais. Ouais, c'est marrant l'expérience. 50-50. Enfin, je suis arrivée en me sentant très féminine et là, ça a quand même diminué. Ce qui m'a aidée, c'est pas forcément. Penser en homme et femme, mais voilà les sensations. Là, tu prends de la place, là, t'as le menton haut, là, tu marches, ton entrejambe en avant. Enfin, pas être en termes de genre dans la tête, mais juste des sensations physiques, en fait. Voilà.
Inconsciemment, je pense, quand j'ai transitionné, pour moi, c'était un interdit. C'est-à-dire que, c'est pas l'affaire d'une femme trans, parce que justement, il faut qu'on apparaisse. En tout cas, c'est comme ça que. Moi, je l'ai vécu au début, et comme aussi on nous le fait vivre, que ce soit dans le monde hétéro, normé, etc., ou dans le milieu communautaire, on nous fait assez vivre que pour être connue en tant que femme trans, il faut être féminine. Et je sais pas, il y a eu une forme de ras-le-bol. Je crois, à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol d'être une poupée, quoi. Et encore une fois, je dis pas que être femme, c'est être une poupée, mais en tout cas, moi, j'ai été traitée, vue. Comme une poupée. Et en l'occurrence, à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de choper un PDF de Stonebush Blues, parce que pour moi, il n'est pas disponible. Et je l'ai lu. Et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis c'est le fait aussi de côtoyer plus de Gwyn. Qui ont fait que, bon, vis-à-vis de la façon, en tout cas, de se considérer, entre guillemets, comme femme, même si, déjà à ce moment-là, j'avais dit que, justement, j'étais pas une femme parce que je suis Gwyn, quoi. Donc, et en fait, à partir de Wittig, de dire, bon, ok, bon, les lesbiennes sont pas des femmes, ok, on va passer à autre chose et on va voir ce que ça va passer. Et puis, il y a eu Feinberg, et puis, il y a eu la vie, la fatigue, et puis, le toute une histoire derrière qui a fait que c'est l'endroit où je me sentais où je me sens le mieux quoi. Je me sens le mieux et puis une forme de je sais pas d'expérimentation de réappropriation et de travail autour d'une question d'une masculinité parce qu'en fait au final on m'a pas laissé même savoir c'est quoi la masculinité, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais su ce que c'était affinité, j'ai jamais su ce que c'était la masculinité. On m'a dit, t'es ça, tu fais ça, t'es comme ça, soit t'es un curé, soit t'es un PD. Bon, la belle affaire. Alors du coup, c'est aussi, c'est un travail, quoi, de c'est un travail de fond, de creuser, d'explorer pour essayer, pour vivre le mieux et jouer et être heureuse, quoi. C'est l'idée, quoi.
I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you.
C'est drôle parce que c'était, je crois que c'était vraiment vers Noël, Nouvel An, quoi.
I wanted you.
Et ouais, j'ai trouvé ça cool. Enfin, je sais pas, genre, je...
And I was looking for you all day.
J'ai essayé, je me suis regardé dans le miroir, etc., etc. Et
But I couldn't find you.
Et je m'aimais encore plus, j'ai envie de dire.
I couldn't find you.
Et au moment où je l'ai mis, et avec... mon premier partenaire qui est aussi un de mes amoureux, y a eu quelque chose qui était assez incroyable. Time. C'est que c'est comme si il était de mon corps, quoi. C'est comme si finalement la séparation entre la prothèse et mon corps n'existait plus. J'avais une sensation comme d'un corps fantôme, quoi, en fait, d'un membre fantôme. Il y avait, lors de son utilisation, l'extrémité qui poussait contre mon pelvis, et il y a quelque chose qui se passait à ce moment-là, quoi. Quelque chose qui était très fort. Et je pense qu'il aussi était très fort parce que la personne, mon partenaire à ce moment-là, il y avait quelque chose de très fort aussi qui se passait avec lui, quoi. Voilà.
Et donc, il est bleu.
Plein de choses. Ouais, surtout la mer et l'azur, tout ça, quelque chose de l'ordre de mes yeux aussi. Mes yeux sont bleus, donc c'est vrai que j'ai vraiment, quand j'ai commandé ce strapage, je dis, ah, il va faire un rappel de couleur avec mes yeux.
Donc un beau jour, tu le commandes.
Ouais, c'est ça. Alors bon, je fais d'abord toute une enquête, une investigation, parce que il s'avère que un sextoy, ça coûte cher. Donc j'ai fait une investigation. Et la question principale qui se posait, c'est, pour le moment, je ne suis pas opéré. Je n'ai pas spécialement envie de l'être. Et je me disais, les prothèses sexuelles type les harnais de gode ceinture, etc., de strap-on, ne sont pas forcément faits pour des personnes qui sont pourvues d'un pénis. Et dès ce moment-là, il y a eu la construction d'une autre façon de considérer mon corps, parce que c'était plus une expropriation que j'ai vécue dès le début dans mon enfance, mais ça a été une réappropriation, et une réappropriation avec un réseau affinitaire important, quoi, et de désir, surtout. Pour moi, il y a aussi l'idée de réclamer, de s'approprier, de se réapproprier, de prendre à un moment donné ce corps qui ne nous appartient pas et qu'on décide d'en faire un champ d'occupation, quoi. C'est occuper une position et de dire, je ne serai pas un garçon, non, je ne répandrai pas ma semence pour faire des mômes, non, je n'ai pas envie de faire ça. Du coup, il y a aussi tout ce truc de... Ouais, je pense de jouer aussi, en vrai. Là, je suis en train de lire le bouquin de Bernstein qui a été traduit au Diable Vauvert, là, et le monde cruel. Et en fait, le truc, c'est vraiment, essayer de trouver un moyen aussi de se marrer de tout ça et modifier aussi, explorer d'autres façons de sentir, quoi. Parce que les hormones m'ont aussi... faire ressentir des choses assez incroyables différentes par rapport à mon corps, quoi. Moi, à un moment donné, à l'époque, j'étais dans le sud et j'étais torse nu dans une cour et le vent a soufflé sur ma poitrine et ça m'a fait un effet fou, quoi. Et c'est des choses comme ça, c'est des reconnexions avec son corps et des stratégies pour essayer de, ouais, de reprendre corps, quoi. Parce qu'en fait, finalement, je pense que la contrainte à l'hétérosexualité et le système dans lequel on vit, qui est binaire, est un système de possession des corps, quoi. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une forme de possession au sens fort du terme, quoi. C'est-à-dire de il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'hypnotiser, de l'envoûter, de quelque chose de l'ordre du contrôler. Il y a des rituels, quoi. Là, il y a des rituels pour rester un homme, il y a des rituels pour rester une femme, quoi. Et alors, pourquoi pas, il n'y aurait pas des rituels aussi pour justement se casser de tout ça, quoi. Donc pour moi, la transition fait partie d'un de ces rituels. Je m'appelle Joyce Rivière. Je suis une femme trans butch et je suis écrivaine.
Voilà. Quel âge ?
31 ans. Quand on est trans, on peut pas dire ça y est, je suis une femme, ou ça y est, je suis un homme. Ça ne marche pas. On peut le dire. Si, on peut le dire. Mais il y aura toujours des personnes pour nous rappeler qu'on est trans. Kathleen Jenner a beau être considérée comme la femme trans la plus femme du monde, on continuera à dire qu'elle est trans. On continuera à faire des blagues sur le fait qu'elle soit trans. Bien que politiquement elle soit détestable, encore plus détestables sont les personnes qui la réassignent à chaque fois à son genre, en la dénaimant, c'est-à-dire en utilisant le prénom qu'on lui a assigné à la naissance, que dans la culture trans, on appelle le dead name, c'est-à-dire le prénom mort. Il y a toujours des personnes qui sont là pour nous rappeler au fait que, ah ben non, ton prénom n'est pas mort. On va te le rappeler. On va te rappeler qui tu étais avant. On va te rappeler quel rôle social tu as eu avant. Et du coup, on va aussi te rappeler les souffrances que tu as vécues en étant obligé de jouer ce rôle-là, quoi.
Dans un de tes textes, Socratine, quand Socratine sort de chez elle, mm-hmm, pour le travail de l'extérieur, mm-hmm, je crois, et t'écris un corps projeté au hasard du vent, et un peu plus loin, les regards qui découpent la peau.
Et le regard qui découpe... quand une personne te regarde, te dévisage, on dit te juge du regard, quoi. Moi, je pense pas... Enfin, je pense que c'est très... un doux euphémisme. Je pense qu'il y a vraiment de l'ordre de découpage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de l'ordre de... la personne va t'analyser sous tous les contours, va couper ton corps, va voir ce qui l'arrange, et à partir de ce qui l'arrange, va interpréter des choses. Et quand tu marches dans l'espace public et que tu t'es confronté à ce regard-là, tu te sens découpé, et puis toi-même tu te découpes toi-même de ton propre corps parce que tu sens une forme de violence et tu ne veux pas être là, quoi. Tu ne veux pas être là. Et en même temps, ben, pour chercher ta baguette de pain, il le faut. J'ai des amis qui ont tendance à dire que la boulangerie, c'est l'espace du regenrage, quoi. Tu rentres, bonjour madame, bonjour monsieur. Tu peux pas y couper, c'est comme ça. Et oui, quand t'es une personne qui est considérée comme un monstre ou comme non adaptable ou ce genre de choses, on te découpe, quoi. On te découpe, on te traite, quoi. Taillader, remonter, parce que, réinterpréter, du coup. Bon, on remarque que t'es une espèce de fiction bizarre, et donc, du coup, en fait, on va faire des cuts comme ça, tac-tac, pour que ça fasse une forme de narrativité qui peut être plus ou moins conforme. Je pense que mon écriture me permet déjà tout d'abord de survivre. C'est-à-dire que si je n'écrivais pas, je n'errerais pas et je me dessinerais pas des cartographies pour ne pas me perdre dans tout ce monde-là qui est une violence extraordinaire. Et donc par rapport à ça, c'est aussi une façon de dire non. C'est-à-dire que c'est une façon de survivre, mais c'est aussi une façon de dire non et de continuer. Et de m'écrire au fur et à mesure. Alors que, en fait, le fait est que, quand on est trans, la vie est très fatigante. La vie est très fatigante parce que on doit tout le temps répondre de ça. Pour exister tout le temps. Tout le temps, on doit justifier de nos propos, de nos pensées, et de nos désirs. Donc, En fait, c'est plus une affirmation et une occupation. C'est vraiment un ordre de l'occupation du squat, squatter mon propre corps, parce que c'est quand même assez dingue que notre corps ne nous appartienne pas, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on est né, on n'a même pas le droit d'avoir une propriété par rapport à notre corps. C'est quand même dingue. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça.
C'est ce que t'écris, je crois. Les ailleurs sont à bâtir ou à construire.
Ouais. Ouais, et puis bon, là je vais faire une connexion avec Wittig, mais dans le brouillon pour un dictionnaire des amantes, elle dit « il y a des îles, quoi, il y a des îles encore à trouver ». Bon, même si moi j'aime pas trop l'idée de... parce qu'une île est habitée, etc., donc j'aime pas trop l'idée de coloniser une île. Vu que j'ai une histoire qui est liée aussi aux ruines, parce que l'endroit où j'ai grandi en grande partie, la maison de ma grand-mère n'existe plus, il y a une bretelle d'autoroute à la place, il y a aussi l'idée de trouver des ruines à investir, quoi. Et je pense que l'identité butch, mais comme l'identité femme, ce sont des identités en ruine, parce que il y a autre chose, et le capitalisme fait que il y a autre chose, et du coup on oublie ça, et du coup on va vers autre chose, enfin comme si du coup, il n'y avait plus de connexion avec ce qui se passait avant, et comme s'il n'y avait pas d'histoire derrière, et comme si c'était tout le temps nouveau, alors que en fait, c'est ça aussi, c'est être trans, c'est être embarqué avec les autres trans, être queer, c'est être embarqué avec les autres queer. En fait, il y a des ailleurs, mais en fait, les ailleurs, ils sont déjà là, c'est des endroits qu'on a, je pense, oubliés, et qu'il faut impérativement réinvestir. Parce que nos ennemis, et là je pense à Walter Benjamin, je pense aussi au dernier bouquin, enfin au bouquin de Norman Ajari, La dignité ou la mort, nos ennemis sont là pour nous tuer même après la mort, quoi. Je crois qu'une de mes plus grandes peurs perso, c'est d'être oublié. Et du coup, j'ai encore plus peur d'oublier les personnes qui sont proches de moi ou qui l'ont été à un moment donné, etc., quoi. Et la question de me souvenir et de pas perdre le focus sur les choses qui m'entourent, quoi. Que des objets continuent à avoir un sens et que ça continue à être accroché à une histoire et lié à des personnes qui ont vécu et qui vivent encore, parce que quand on est trans aussi, on a plus de probabilités à déjà traîner des mortes et des morts autour de nous, quoi. Derrière nous, des copines trans qui se sont suicidées, ce genre de choses, quoi. Donc, je sais pas. Moi, je pense que ma façon d'être trans porte vraiment l'idée qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Et donc, c'est comme... Et je veux vivre et je célèbre la vie. C'est pas ça le souci. Mais il y a aussi... l'idée de faire vivre des personnes à travers ces objets, je pense. Ils ont tous une valeur plus ou moins affective. Même le Xanax a une valeur affective. Parce que c'est une personne que j'aime beaucoup qui m'a filé ma première plaquette. Et ça m'a beaucoup aidé. Le strap-on a une valeur affective, le lubrifiant a une valeur affective, ces bouquins ils ont une valeur affective. Il y a là le Sam Bourcier, c'est il y a une autographe de Sam Bourcier. Le corps lesbien, c'est une amante. La pensée straight, je dois le rendre à une ancienne amante aussi. Rêver l'obscur, c'est une personne qui est très très importante pour moi et qui est butch. Et Kate Bornstein, pour moi, c'est j'aime pas l'idée de famille, mais c'est une très 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 grande sœur, quoi. Et quand justement elle a participé à ce truc politique de dire qu'il n'y a pas de dysphorie de genre, ou qu'on doit être contre la dysphorie de genre, mais qu'on doit être pour l'euphorie de genre, et que c'est trop bien de sortir de ça, de sortir d'être un garçon, être une fille, et d'affirmer le droit à une forme de différence, malgré tout ce qu'on va nous dire, que c'est superficiel, ou ce genre de choses, etc., d'en avoir rien à foutre et de continuer le truc, quoi. Et de proposer aussi des stratégies pour survivre face à toute cette violence, parce que la tentation du vide est permanente quand on se réveille dans ce corps-là. Alors que le genre, pour moi, était une porte de sortie à un moment donné, quoi. Et occuper la porte de sortie, parce que ce qui est vachement pervers dans cette affaire-là, c'est que la porte de sortie, elle a été érigée en un sens par nos psychiatres, quoi. Donc c'est l'idée de la grève du genre, c'est non seulement dire merde au patron, papa, psychiatre, qui nous disent c'est ça être un garçon, c'est ça être possesseur du phallus, et c'est ça ne pas l'avoir. Eh ben non, on prend les clés de l'usine et on en fait ce qu'on veut, quoi. Et on fait rentrer qui veut, pas qui on veut, mais qui veut.
Alors ce mec-là, c'est un fantasme que j'ai eu plusieurs fois déjà. C'est le fantasme de l'espionne sexy, tu vois. Donc en fait, fantasme, c'est de se faire contrôler par une belle femme, quoi. Donc comme moi, je suis française et en plus j'offre un peu le fantasme genre sophistiqué et dominante. Du coup, ce qu'ils aiment bien, tu vois, c'est me donner le contrôle. Et par exemple, j'avais un client dont le fantasme c'était, il avait un fantasme super précis, tu vois, qu'il refaisait encore et encore avec des meufs. Et le fantasme, c'était de se faire attacher, tirer les tétons, et après de se faire... Ils veulent se faire utiliser pour mon plaisir, tu vois. Un truc du style. Du coup, moi... En général, tu vois, je suis en noir, et puis j'arrive, je suis là, ah, fais-moi un verre.
Oui, parce que,
tu vois.
Comme on dit depuis un moment, le privé est politique, quoi.
Je m'appelle Adèle Cormet.
Je m'appelle Rat. Sam Boursier.
Je m'appelle Gianfranco Rebuccini.
Je suis
chercheur précaire de l'enseignement supérieur.
Je fais aussi des performances.
Et j'écris des bouquins.
Et c'est la mise en crise de la sphère publique et de la sphère privée, quoi. Il y a un passage, je sais plus dans quelle queer zone de Sam Boursier, où il dit que ce serait trop bien qu'on ait la possibilité d'avoir comme un sac à main ou un sac avec notre gode dedans, quoi, qu'on peut utiliser à n'importe quel endroit. De toute façon, quand on est trans, et ça c'est mon avis personnel, et ça n'engage pas les autres. Il n'y a pas de vérité, trans.
Des drogues, mes drogues.
Pour moi, la transition, c'est une forme de réappropriation et de réparation.
C'est mon sac de pute et c'est mon sac de pute par procuration.
Pour moi, la réparation, la réappropriation,
je pense que c'est né de...
Elle est collective, elle est communautaire, quoi.
Un groupe de personnes, beaucoup venaient d'Italie ou du militantisme en Italie. On s'était croisés notamment, surtout dans le Movimento Nazionale, qui est un réseau de collectifs d'activistes transféministes et queer.
Donc il y a aussi une identité trans, des identités trans qui se construisent par ce réseau-là, quoi.
Les questions qui concernent la précarité, le travail d'exploitation, etc., dans son perspective transféministe.
Le travail, c'est horrible. Le travail, comment on peut s'en extraire aussi de l'organisation du travail comme il est organisé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire être queer et être dans le monde du travail qu'il est organisé d'une façon... hétérosexuel.
Effectivement, ça a été un peu une...
On se fait pas tout seul, ça n'existe pas, je pense
révélation.
Pas.
Enfin, je me suis retrouvée en 2013, d'ailleurs, Roger était là, on était dans une journée, en fait, Gender Trash, à Bologne, dans un lieu maintenant, enfin, qui n'existe plus, qui était un lieu, donc, ça s'appelait l'Atlantide, le collectif Smascaramenti a organisé beaucoup de choses. Puis on a fait un atelier drag king. On répétait par exemple des gestes qu'on fait au travail. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire que cette histoire de genre comme travail, pas exclusif d'ailleurs du tout, genre comme performance, c'était en plus moi ce dont j'avais besoin aussi à l'époque. Voilà.
Participer à ce monde du travail, au travail, qu'est-ce que ça veut dire par ailleurs le travail en général? Comment c'est où s'arrête le travail? Est-ce que ça commence seulement quand on va au travail, ou est-ce que c'est déjà quand on est chez nous, ou est-ce que quand on performe notre genre, notre sexualité, c'est ça aussi, penser au travail, mais d'une perspective de ce qu'on appelle en Italie le refus du travail.
C'est vrai que si on parle de genre comme construction, y compris d'ailleurs dans le matérialisme féministe français, Il n'avance pas beaucoup. Enfin, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est les paradigmes qu'on met à l'intérieur du genre pour avancer. Il y en a plein. Il y a le genre comme technologie de Teresa de Lourdes, c'est-à-dire sous-employé. On aurait pu imaginer le développement du genre comme prothèse, ça n'a pas été fait. Il y a le genre comme performance, qui nous a dynamisé, nous. Pourquoi ? Parce que peut-être que maintenant, justement, on en perçoit mieux le côté un peu libéral, y compris chez Butler. Tu performes ton genre, tu fais ce que tu veux, enfin, c'est le fait de genre, etc. Mais c'est vrai que bon, la performance, ça a été une manière plus active de voir le genre comme un processus et que le fait de le répéter, tu pouvais le répéter de travers. Bah, c'est ça que ça veut dire, le genre comme performance et comme performativité. Après, je pense par exemple, rétrospectivement, un film comme Paris is Burning, on a vu que la performance de genre, il y a eu des interrogations sur la performance de race, je ne vais pas revenir dessus, mais en fait, il y avait plein de moments où les vogueurs parlaient du travail. Hein. À un moment, ils font la performance du vieux pic d'époque, comment on appelle ça, les tapis d'époque, quoi, comment on les banquiers, plus que les banquiers, les traders, enfin, etc. À un moment, ils font les militaires, ils font. Et d'ailleurs, c'est des performances de blancs, hein. Donc, et ça, on l'a pas vu comme ça. Bon, alors, c'est une chose de faire une performance d'un travail, une position sociale inaccessible. Et donc, bon, par rapport à Federici, Federici, elle parle que de la féminité, d'une certaine féminité, et qu'il fallait inclure là-dedans tous les genres, et qu'on était à un moment où les genres, je sais pas s'ils étaient mis au travail, mais les genres queer, ils le sont, on commence à extraire de la valeur, puisque maintenant, on est quand même à un moment où les gays et lesbiennes font des enfants, donc ils rentrent dans la sphère de la reproduction et de la production, de la productivité, enfin, la chaîne au travail.
C'est un travail très, très important, central, fondamental, non, pour la production et toute l'organisation du travail capitaliste. Parce que nous avons vu une chose qui est très, très claire. Non, il a fallu une génération de révolutionnaires masculins pour ne pas la voir. Nous avons vu que ce travail produit la force travail, produit le travailleurs. Non, et la travailleuse.
Moi, j'ai commencé à travailler dans un bar à Paris.
Alors, nous avons compris que l'organisation capitaliste du travail ne passe pas seulement.
J'avais plutôt une allure hétéro et petit à petit, j'ai changé, j'ai commencé à assumer des choses.
Les socialistes, les marxistes.
L'accessoire de féminité, on va dire.
Pouvez-vous voir seulement les usines
jusqu'à avoir une allure vraiment qui me convenait, qui était plutôt une allure queer.
Il n'y avait pas que la révolution,
c'était... Le but du raisonnement sur le travail du genre
mais nous avons vu
et sur la mise au travail du genre, bien beaucoup de la réflexion sur comment le travail domestique est possible en tant que travail gratuit à travers le fait qu'il est naturalisé comme quelque chose qui est un travail d'amour et qui est fait par les femmes parce qu'elles sont de femmes parce que c'est une façon d'exprimer leur soi-disant être de femme et leur féminité.
Et où j'étais maquillée, vernis
à ongles, marchandise, c'est la force travail.
Des coiffures, des vêtements.
Que la femme, le que s'appelle
un glamour assez incarné.
Que s'appelle le travail au ménage. En réalité, est la production et reproduction de la force travail.
Bon, j'ai eu quelques remarques de mes collègues, mais pas un seul de ma direction. Du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à la fois être agréablement surpris, mais aussi je trouvais ça bizarre. Et puis je continuais à travailler, je m'attendais à être un peu réprimandé en fait sur ma tenue, et un jour il y a un manager qui prend ma main comme ça, qui regarde mes ongles, mon vernis à ongles, et qui me dit « Bon écoute, ça me dérange pas que t'aies du vernis, mais il faut qu'il soit bien fait. » Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que il n'y avait pas de problème au fait que j'avais une allure queer, une performance de genre queer, parce que j'étais dans un bar potentiellement qui construisait aussi une image commerciale qui était basée sur quelque chose de métropolitain, voire londonien, voire... fallait que aussi les serveuses et les serveurs vendent quelque chose de l'ordre de la liberté, voire de la déviance en fait, presque. Mais il fallait bien le faire. Et du coup, mon problème, il était double en fait, c'est que j'étais pas payé pour faire les tâches invisibles qui permettaient de reproduire mon genre, en fait. Juste d'appliquer correctement le vernis avant d'aller travailler. Donc ça, ce temps-là, en fait, qui est important, tout le monde le sait, mettre du vernis, c'est long. Pour bien le faire, il faut du temps. Moi, il ne m'était pas payé. Ça, c'était un premier problème. Mais aussi, le deuxième problème, c'est que toutes les discriminations que je ressentais quand même sur le lieu du travail, comment dire, quelque chose de l'ordre de l'agression permanente, presque, avec des insultes régulièrement et tout ça, c'était juste à moi de le gérer, en fait.
Parce qu'en fait, même gens comme performance, c'est une métaphore, en fait, de la question. Et le genre comme travail, c'est aussi une autre métaphore qui permet de penser des choses et permet de penser d'autres choses qui peuvent peut-être pas, qui le genre comme performance ne permet pas forcément de penser. Le genre comme performance, Butler l'a pris du théâtre, en fait. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui performent un certain type de genre, un certain type, et qu'on peut donc performer une partition qui est répétée tout le temps, c'est la performance de la
personnalité. On joue la femme, on joue l'homme. I would say yes, it's true, on joue, mais but it's not always a simple question of jouissance. It is also a question of jouissance. Very often, I love my pants, I love my shoes, I love my dress.
Ce qui permet aussi une certaine vision du genre, à mon sens, qui a permis aussi de voir le genre fort, comme très une pratique individuelle aussi, un petit peu.
Très magnifique.
On s'est dit à un certain moment, ben voilà, le genre c'est une performance, donc je performe le genre que je veux, et c'est moi qui décide.
But sometimes also it is an anxiety. An anxiety, an angoisse, a fear, une peur.
Mais en même temps, le genre comme travail permet aussi de réfléchir au genre dans un système.
Et tout ce travail sur les hôtesses de l'air.
Le système capitaliste, le système patriarcal.
On sait bien que voilà.
Le système racial.
La forme d'affinité plus, ce travail social.
Il y a beaucoup de systèmes qui encadrent
le côté sexy,
les possibilités qui se montrent qu'on a de pouvoir
souviens,
travailler.
J'en ai parlé une fois avec Thierry Chafosseur. Donc du STRAS, le syndicat des travailleuses du sexe. Et puis on avait vu la même pub, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait une pub pour Air France. Les hôtesses de l'air étaient mises en scène pour faire la sécurité, mais comme des connasses, mais vraiment. Donc elles s'asseyaient, puis la ceinture de sécurité. Il fallait, comme c'est Paris, la mode, la mettre comme une ceinture de robe dans un défilé de mode. Et après, il fallait lire la notice, la lisait à l'envers, tellement elles étaient connes, etc. Puis elles devaient tout le temps les jambes, un truc, mais vraiment pénible. Et lui, il me disait, j'espère qu'elles sont vraiment bien payées pour faire ça. Parce qu'une pute, elle serait une travailleuse du sexe. Elle demanderait l'argent pour tout ce travail-là, pour toute la performance de la féminité, les échanges économico-sexuels flottants, etc. Cette demande de rémunération des échanges économico-sexuels ou des services sexuels ou des invisibilisés, etc. Bon, elles, évidemment, elles savent la demander. Et pour rebondir sur ce que disait Jean-Franco, c'est justement pour ça qu'on va les interdire, on va les exclure du marché du travail.
Il y a sûrement la possibilité d'interrompre le flux de production et de reproduction.
Parce que le travail du sexe rend visible le travail du genre à puissance 1000.
Qui fait la grève? Qu'est-ce qui fait la grève? C'est interrompre un flux de la production et de la reproduction. Mais est-ce qu'on peut l'interrompre tout seul, ce flux-là? Non. Et l'idée du travail, de genre comme travail, c'est aussi l'idée qu'on ne peut pas faire des choses tout seul. Le genre, c'est une performance, mais c'est une performance collective.
Alors, est-ce que toi, tu trouves que j'ai l'air d'une meuf hétéro? Bof? Moitié-moitié? Plus ou moins? Ça va? J'ai toujours du mal à dire. Hein. Bah déjà, avec le tatouage sur le cou, ça aide pas. Hein. J'ai du rose sur les paupières, et après, juste du mascara et puis du fond de teint. Et après, je fais. En général, j'attends jusqu'à la dernière minute pour me faire le rouge à lèvres pour que ça. Parce que je bois un verre en général sur le chemin où je mange quelque chose. Mais là, c'est un peu intense parce que. Mercredi? Jeudi? Jeudi? Jeudi. Jeudi le 28. Je peux marcher dans. Le dernier jour de février. doucement et tu me suis.
Où est-ce que tu veux m'emmener?
Où est-ce que je veux t'emmener? Ben, en fait, je vais juste faire mon sac pour tout à l'heure. Donc déjà, il faut que je choisisse quel sac c'est. En fait, j'ai un sac que ma fiancée m'a prêté quand elle est partie, quand elle est rentrée en Australie. Et c'est son sac de pute et c'est mon sac de pute par procuration. Alors, tu vois, ça, c'est tous mes trucs de boulot, quoi. En général, en fait, ce que j'offre aux clients, c'est un truc.
Mes trucs de boulot et de cul qui entre ce qu'on appelle GFE, Girlfriend Experience.
Donc ça, c'est tout. Mais tu donnes de la conversation.
Sous-vêtements.
Et escort. Comme moi, en général, j'ai tendance à pas faire moins d'une heure et demie ou deux heures, et comme mes prix sont assez élevés, et que j'ai fait des grandes études et tout, en général, je fais pas vraiment de prostitution où c'est uniquement du sexe, tu vois. En général, j'arrive, on fait un peu la conversation, voilà. Et s'il y a un... et puis après, on baise. Et en général, ils me précisent avant ce qu'ils veulent exactement qu'on fasse au lit. Et après, s'il y a un élément de GFI, tu fais plus... Tu vends plus de l'affection, quoi. Je sais pas. Je baisse pas avec des mecs cis hétéro. Normalement, pas trop. À part pour le taf. Quoique. En général, ouais, voilà. En général, c'est comme ça que je définis ma sexualité. Ce que je fais au lit, c'est à peu près n'importe quoi, n'importe qui, avec qui j'ai eu des relations amoureuses qui sont aussi sexuelles. En général, c'est plutôt des personnes qui sont nées avec un vagin. Enfin, sur une personne avec un vagin, ça peut aller d'une personne qui se définit comme cisgenre, donc femme, à une personne non-binaire, à une personne trans, à une trans non-binaire, à une personne trans masculine, à une personne qui se définit comme homme avec un vagin. Et après, quand je suis en situation sociale avec des hétéros, en général, je me définis comme lesbienne ou gwyn. Et dans des milieux queer, je me définis comme gwyn parce que je pense que c'est une dénomination importante, quoi. Gwyn Femme.
Vous me présentez? Ok. Je m'appelle Matt Saint-Jean. C'est bon?
Et t'habites où?
À Berlin.
Quand j'étais plus jeune, j'ai jamais eu vraiment de questions sur le genre. Plus des questions sur ma sexualité. Et après, quand j'avais 18 ans, je me suis coupé les cheveux parce que je voulais qu'on me prenne au sérieux. J'avais l'impression que si t'étais une fille, on te prenait pas au sérieux. Du coup, je me suis coupé les cheveux. Et après, quand je suis allée à Cambridge pour mon master, je suis redevenue hyper femme. Je portais des talons tout le temps, du maquillage, les cheveux longs. Et c'était satisfaisant, mais d'un côté, ça m'a permis de jouer un rôle, le rôle de la tentatrice française. J'étais un peu plus vieille que tout le monde avec qui je vivais. Et c'était pas un bon moment pour moi, parce que j'avais du mal à faire la distinction entre la performance de genre et qui je suis moi en tant que personne. Après, quand je suis rentrée en France, je suis rentrée en relation avec une personne butch, qui est très très belle. Donc butch, c'est genre ouais, lesbienne masculine, quoi. Qui est très 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 belle et qui le sait. Bref, et j'avais envie de lui ressembler, quoi, parce que c'était typique, tu tombes amoureuse pour la première fois. C'était la première fois que j'étais amoureuse de qui que ce soit, et du coup, je voulais lui ressembler. Et c'était au moment, en plus, où j'avais commencé à lire de la littérature queer, donc du coup, tu vois, je lisais Testo Junkie de Preciado, Butler, c'est aussi au moment où j'ai pris de la testo une fois. Et du coup, ça faisait sens pour moi de me masculiniser, tu vois. Donc je me suis recoupé les cheveux, je me suis fait faire pas mal de tatouages, j'ai commencé à porter les mêmes trucs que mon ex, et on était un peu en... Comment est-ce qu'on dit? Le truc lesbien, quoi. En meld, on était un peu en fusion. Après, quand je suis venue ici, à Berlin, j'ai réalisé que la féminité s'est vilifiée, et j'ai commencé à entendre des histoires par certaines de mes potes, parce que je me suis fait pas mal de potes féminines, ce qu'on appelle femmes. Et en fait, ici, à Berlin, il y a high femme d'une manière qu'il n'y a pas à Paris, tu vois. Mais vraiment, faux ongles, maquillage, faux...
En gros, et comme il y a beaucoup de gens qui font de la performance...
C'est un booking de une heure, ici, à Berlin. Je pense que ça se marie, tout ça, tu vois. C'est moins un truc... Tu te dis, je suis obligée d'avoir l'air parfaite partout où je vais, mais c'est plus, tu veux performer la féminité.
Donc, je suis en pantalon avec un haut, mais c'est un haut un peu moulant, donc voilà.
En test, ce soir, j'ai accepté de faire une heure pour 250.
avec un mec qui a l'air assez sympa d'ailleurs.
Ça m'a coûté 2,50€.
Et voilà.
Et du coup, l'autre, je l'ai récupéré dans la rue. Non, mais il faut juste avoir un truc un peu moulant et puis de toute façon, tu vas l'enlever en 5 minutes.
Bon, je t'ai épargné la douche.
Tu vois, je vais pas non plus me pointer. Tu vois, si le mec me paye pour une heure, je vais pas non plus me pointer en talon aiguille et puis. Tu vois, pour me faire. Les jambes et le haut de la chatte, enfin le triangle.
En plus, il m'a dit qu'il était relaxé.
Mais parce que maintenant, et en fait, on a beaucoup de chance, tu vois. Les putes de nos jours, on parlait de ça avec une de mes collègues. On a vraiment beaucoup de chance parce que tu vois, même il y a 5 ans,
après, je vais dire que la chatte et après,
j'ai rasé et les aisselles, tu pouvais pas taffer. Alors qu'ici, à Berlin, et enfin, comment dire, en 2019, tu vois, je me rase pas les aisselles. Je sais que la plupart des putes le font pas non plus. Enfin, en tout cas, mes potes qui sont dans la communauté queer, il y en a plein qui se rasent pas. Plus du tout la chatte, tu vois, qui ont des gros. Des grosses. Comment est-ce qu'on dit ?
Buissons
ou... Ouais, des gros buissons, genre années 70. C'est chaud, moi je suis impressionnée à chaque fois, je suis là, waouh, en fait, un mec, tu vois, dès qu'il y a un trou, il s'en fout, hein, ce qu'il y a autour. Et après, moi aussi, ce que je vends, tu vois, comme j'ai des tatouages, c'est Suicide Girl, c'est Berlin, Party Girl, on s'attend à ce que je sois bi, on s'attend à ce que je fasse du sexe anal, enfin, tu vois. C'est aussi un profil spécifique. Parce que ça fait partie du fantasme que je sois bisexuelle et que j'ai des poils sous les bras, mais seulement jusqu'à un certain point, tu vois. Si je me pointais sans maquillage, et si je disais que j'aime pas la bite, si je commençais à expliquer des trucs sur le genre, que je me genre pas en tant que femme, ou que je suis dans une relation amoureuse avec une personne butch, enfin tu vois, et que c'est ma préférence sexuelle, ils comprendraient pas, tu vois. Enfin... Ouais, moi j'essaye quand même de vendre quelque chose qui est compréhensible, quoi. Enfin, tu peux regarder mon profil, c'est une fille libérée, j'ai fait des grandes études et j'étais toujours très bonne à l'école, et j'étais toujours très jolie. Et puis, quand je suis arrivée à Berlin, je me suis dévergondée, mais je suis quand même sophistiquée, tu peux m'emmener à l'opéra. Mais je suis pas juste des seins et une chatte, mais tu peux aussi me parler.
Vrai,
parce
en
que,
vrai, je suis une pute très...
Je suis étudiante et donc du coup, je suis pas pute de carrière et donc, tu vois.
Je suis une pute très...
Putain. Mes talents de maquilleuse sont
lazy,
comment dire, basiques. Et la seule différence avec mon maquillage de tous les jours, c'est que j'en mets pas sous les yeux, j'en mets que sur les paupières. Des fois, je fais plus d'efforts. Quand je prends du speed avant, je fais plus d'efforts parce que je suis toujours là. Ah, je dois donner une expérience qui doit rivaliser toutes mes collègues, dalala, et leur sucer la bite comme on ne leur a jamais sucé, tu vois. Mais bon, des fois, je suis là. Pff, de toute façon, une fois qu'ils me donnent la thune, ils me donnent la thune, tu vois.
J'ai pas vraiment de personnage, enfin, tu vois, c'est plus subtil, c'est plus je fais semblant d'être une personne normale qui est juste un peu plus sexuelle, quoi.
Je parle de ta vie de tous les jours aussi, potentiellement.
Ah, moi, j'adore faire la bimbo, j'adore faire la Gwyn hard dans la rue, et mon personnage préféré, comme j'ai les cheveux rouges, en général j'ai du maquillage rouge, Cruella, je suis hyper sexuelle, hyper féminine. Et avant, j'avais des faux ongles, mais maintenant que je doite régulièrement, je peux plus. Cela dit, pour que tout le monde le sache, c'est très possible de doiter avec des faux ongles. Cela dit, mieux vaut de pas doiter des culs, des trous du cul. Et si vous doitez des chattes, un, de faire attention, ou deux, de mettre des gants, ou de mettre des gants avec du coton en haut. Tu vois ? Putain, mais je vais pas y arriver. Ah, je suis en retard. Ok, là, je commence à stresser. Ah ! Et je suis toujours en retard. Ça, c'est mon sac. Et dedans, il y a un livre pour le taxi. Des fringues pour la fête. Des fringues pour demain. J'ai sûrement oublié quelque chose.
Ah oui.
De l'alcool. Des drogues. Mes drogues. Du speed.
T'as Uber, toi ?
C'est juste que j'ai peur que... Uber X, ça veut dire qu'il y a des autres gens dedans ou pas ? Si ?
Non. L'éternel féminin, c'est une multitude d'éternels féminins. Un god en vert, rose. Chaque client a une idée dans son esprit de ce que c'est que l'éternel féminin. Et je pense que le pouvoir, c'est ce que dit Foucault d'ailleurs, le pouvoir de la société dans laquelle on vit, c'est pas une personne individuelle,
stress,
masculine, cis, hétéro, qui t'oppresse toi individuellement, personne féminine ou femme.
Heureusement femme. Que le client est relax. Parce que j'ai déjà repoussé d'une
Une société qui a
on va être
internalisé
au taf.
Des des espèces de grands commandements de ce que ça veut dire d'être femme, qui sont différents selon les classes, les races et les pays aussi, avec plus ou moins de violence.
Alors, là...
Peut-être.
Yeah. Non, non. Sorry. Je prêt, je mets. Mets de mèche.
C'est ça, le but aussi. Tu vois, c'est se changer dans les taxis.
Und, tout le temps.
C'est se pointer so. Avec une gueule de bois.
Là, tu vois.
Et faire semblant
que je mette du.
T'as dormi, tu vois.
Je me suis pas lavé les dents.
Dommage.
C'est. Dommage pour lui.
Semi-vomir sur des bites tout le temps.
Comme je vais sucer sa bite.
C'est sympa, ouais.
Basique,
mais je suis quand même jolie.
Est-ce que ça va le maquillage là?
Parfait, ouais.
Ouais, faut voir comme j'allais. Ça va?
Fais ça.
Yes.
Ok, cool. Après, je vais mettre mon réveil. Ah, il est exactement 8h30. Ah, comment j'ai géré? Putain, cool, ok. Alors, I'm here.
And then just be safe from falling.
Over and over.
En fait, si tu veux, ça, le mec était vraiment genre passionné et tout. Mais il m'a donné de la thune extra, donc ça va. Enfin, pas autant aujourd'hui, ça va.
Déjà, c'est pas vraiment un hôtel, c'est des appartements. C'est des appartements de business, donc tu loues ton appartement. Bref, on s'en fout. Et alors, je décris quand même la manière dont il m'a donné la thune. C'était dans une enveloppe Kraft, où il y a écrit mon nom de pute, Alice. Et après, il y avait une carte dedans, qui disait merci avec un petit cœur. Et après, à l'intérieur de mes billets, il y avait sa carte de visite. Faut le faire quand même. Enfin, des fois, tu te demandes où ils sortent les mecs, des fois. Bon, bref. Et alors, lui, son délire, j'avais complètement oublié, lui, son délire, c'est le BDSM. Et du coup... Bah du coup j'ai un peu morflé en vrai, il m'a mis des... Wow, en général c'est vraiment pas aussi actif. Berk. Tu veux quoi déjà? Et après on peut s'asseoir dehors parce qu'il y a une petite table. Moi je voudrais... Qu'est-ce que je buvais tout à l'heure? Helles.
Non, j'aurais pas la Berliner, truc.
Berliner Kindle?
Ouais.
C'est là.
Ah, yes.
Comment tu te positionnes? Comment tu te sens? Comment tu te présentes? Comment les gens te voient? Comment les gens te perçoivent? Et après, les relations de pouvoir fluctuent. C'est pas aussi simple que quelqu'un a du pouvoir et une autre personne n'en a pas. C'est juste qu'il y a du pouvoir qui bouge de corps à corps. Tu vois, moi par exemple, j'ai énormément de pouvoir ayant cette position de travailleuse privilégiée qui... Tu vois, je suis arrivée là-bas, je me suis fait du... Tu vois, et en une heure, je me suis fait un 300 balles. Enfin, tu vois, c'est quand même... C'est puissant comme truc. Mais tu vois, j'ai eu un moment de dépossession totale où je me suis dit, bon ben voilà, après, tu vois, le fait que j'ai de la thune ou pas, ça change rien au fait que ce mec est deux fois mon poids et est plus grand que moi et que s'il veut me violer, il peut quoi. Et il le conceptualisera sûrement pas comme un viol. Moi, ça m'a pris beaucoup de. Enfin, pendant beaucoup de ma vie, je sentais que ma féminité, c'était. J'aurais préféré, tu vois, pas être née femme, pas parce que j'aime pas mon corps, pas parce que j'aime pas le fait d'être. C'est juste parce que les associations qu'on met avec la féminité, c'est des associations de stupidité ou de faiblesse ou de docilité qui me correspondent pas à moi en tant que personne. Parce qu'il y a aussi, tu vois, de la même manière qu'il y a un fantasme de la femme docile, il y a aussi un fantasme de la femme dominante. Alors tu te dis, c'est quoi la féminité? C'est la passivité ou c'est la dominance? Enfin, tu vois, c'est la passivité ou c'est la dominance? C'est le fait d'être frigide ou c'est le fait d'être toujours ouverte pour le sexe? Ça peut être... C'est constamment contradictoire. Donc, c'est ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris, et ce que je ressens. J'arrive à naviguer entre ces états et à me sentir bien, tu vois, et à me sentir que ce que je fais, c'est ce que j'ai envie de faire. Après, pour ce qui est de monétiser la féminité, oui, bien sûr, c'est juste plus, comment dire, c'est juste plus évident, quoi. Mais de la même manière que si t'es secrétaire, t'es aussi monétisé. De la même manière que d'ailleurs, je fais un autre taf où je fais la, comment est-ce qu'on dit, garde-robe, la
vestiaire,
où je fais le vestiaire dans un club, et je sais que le manager qui est une personne cis, mec, bi, je sais que, il m'a dit d'ailleurs que la raison pour laquelle il m'a engagée, c'est que je suis belle, tu vois. Donc voilà, c'est la même chose, sauf que c'est un, moins évident, et deux, moins payé, enfin moins bien payé.
Alors bon, la grève du genre, c'est... Moi, ça me fait penser à l'occupation. C'est une occupation de l'usine du genre, c'est l'occupation de la cuisine du genre, c'est une occupation de la chambre du genre... C'est une occupation de tout ça, quoi. La salle de bain du genre, ce genre de choses, quoi. C'est une occupation de la rue du genre, c'est une occupation du métro du genre, c'est une occupation de la voiture du genre, c'est une occupation de l'avion du genre, c'est une occupation de la tour Eiffel du genre, c'est une occupation de la radio du genre.
J'étais pas payé pour faire les tâches invisibles qui permettaient de reproduire mon genre.
Salut. C'est une occupation du livre du genre.
Et tout ça, c'était pas non plus payé par l'entreprise. C'est une occupation
de tout ça, quoi. C'est une occupation de...
Et du coup,
du sujet du genre et de l'objet du genre, c'est de l'homme du genre et de la femme du genre.
Bah, en fait, j'ai décidé plutôt de m'organiser collectivement avec Burnout parce que on peut pas faire la grève seule.
Plus de temps, plus d'argent. Voilà. Avec tout le fric comme dit Federici qu'ils ont pris sur nos petits plats, sur notre cul et quoi, il y a un troisième truc qu'elle dit.
Sur les yeux,
nos sourires aussi.
Ouais.
En fait, la grève du sourire était aussi un décidé.
Oui, c'est pas.
C'est vraiment, tu peux pas participer à la grève parce que t'es hyper précaire et ou t'es autre entrepreneur ou autre entrepreneuse et que t'as pas des patrons et que. Mais quand même t'es exploité, bon, au moins tu peux arrêter de. Sourire, de répondre à un email, de répondre à sa tante que tous les autres ont envers toi constamment, et voilà. Paye aussi.
Alors, est-ce que toi, tu trouves que j'ai l'air d'une meuf hétéro? Bof? Moitié-moitié?
La grève du genre, avec Louise Deville, les participantes de l'atelier Drag King, Joyce Rivière, le collectif Burnout, Sam Boursier, Gianfranco Rebuccini, Roger Fiorelli, Adèle Cornet et Matt Sergente. Un grand merci à Émilie Loison, organisatrice de l'atelier Drag King. Archive Paris is Burning, documentaire de Jenny Livingston, avec les voix de Sylvia Federici et Judith Butler. Prise de son, Laurent Lucas. Mixage, Pierrick Charles. Coordination, Aurélie Charon. Attaché de production, Inès Duperron. Un documentaire de Clément Salzar et Angélique Thibault. Oh,
Demain soir, dimanche à 20h, une expérience colombienne. Le photographe Felipe Camacho nous emmène à travers la forêt amazonienne dans un village de FARC qui, depuis le processus de paix, envisage d'accueillir quelques touristes. En attendant, il est bientôt 21h, vous écoutez France Culture, l'expérience, la création, ça continue, place maintenant à la fiction.